Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. S'il y a bien un sujet dans notre beau pays de gastronomes qu'on a du mal à aborder sereinement, c'est la viande. Entre l'ulcération légitime que provoquent des scandales de maltraitance animale comme ceux révélés par l'association L214, l'agacement profond que suscitent certains courants véganes radicaux et la récupération politique, pas toujours très finaude, qui est faite de l'une ou l'autre de ces colères, difficile d'aborder calmement la question de notre rapport à la bidoche. Pourtant, que ce soit du point de vue économique, écologique ou social, il y a énormément à dire et bien des progrès à faire pour tenter de sortir ne serait-ce qu'un peu d'un modèle ultra-productiviste qui, de l'aveu d'à peu près tout le monde, est clairement à bout de souffle. Alors on a eu envie, de notre côté, d'essayer de voir un peu plus clair sur le poids réel de la viande sur nos vies. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Ces images vous racontent l'inauguration des derniers travaux de modernisation des abattoirs de Marseille. Voici M. Gaston Defer, député maire de Marseille, qui descend de sa voiture et salue les personnalités présentes.
Et pour cet épisode, je ne suis pas tout seul puisque mon camarade Thibaut Shepman, le patron du podcast Bon Plan, est avec moi. Salut Thibaut.
Salut Thomas.
Ensemble, nous avons pour démarrer cet épisode sur de bonnes bases passé un petit coup de téléphone à l'économiste Nicolas Treich de la Toulouse School of Economics.
Il est également chercheur à l'INRA et pour démarrer, on lui a demandé ce que représente la production de la viande dans l'économie mondiale et française, ce qu'elle coûte et ce qu'elle rapporte.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la production de viande représente entre, suivant les pays développés, représente entre 2 et 6%, je dirais, du PIB de ces pays. Mais il faut, c'est très important de distinguer les pays développés des pays en développement. Dans les pays en développement, dans beaucoup de situations, la viande joue un rôle essentiel pour la subsistance même de certaines personnes, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans les pays développés. En termes d'emploi, pour donner une idée, en France, on dit que les emplois directs et indirects du secteur de la viande représentent environ 3%. Du total des emplois. Ces emplois dans le monde de l'élevage sont très largement subventionnés. On dit que plus de la moitié des revenus des éleveurs viennent de la PAC, la politique agricole commune, et il existe beaucoup d'autres formes d'aide pour aider le secteur qui est en grande difficulté économique. Et d'autre part, il faut aussi relativiser ces chiffres. Quand on parle de 3% de l'emploi national, il faut pas imaginer que si on réduisait voire éliminait la consommation de viande, on perdrait directement tous ces emplois. En fait, il faut bien qu'on mange, donc ces emplois des emplois seraient créés dans la production de végétaux, par exemple.
Ça, c'est quelque chose qui est assez mal connu, le fait que ce secteur soit largement subventionné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Quelles sont les activités qui sont subventionnées?
Donc la source principale de subvention, c'est la politique agricole commune. Donc c'est une politique qui a été mise en place dans les années 60 et la part principale de cette politique, la PAC, est consacrée à l'élevage. Aujourd'hui, pour donner des ordres de grandeur chiffrés, la France donne environ 20 milliards à l'Europe, qui nous reverse 15 milliards. Sur ces 15 milliards, il y a environ 9 milliards qui vont au monde agricole. Et certains types d'activités agricoles, comme les productions de céréales, par exemple, ou la production bovine et sont les activités qui sont les plus subventionnées.
Est-ce qu'on arrive à mesurer, parce que là on parle beaucoup de l'aspect financier, économique de cette production, est-ce qu'on arrive à mesurer par contre son impact écologique concret ?
Ah oui, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui concernent l'impact écologique de la production et la consommation de viande. Et on peut dire que cet impact est massif. Aujourd'hui, il y a une étude publiée l'année dernière dans Science par Godfrey, un chercheur d'Oxford, et ses co-auteurs, qui fait le point un petit peu sur les impacts écologiques et sanitaires de la viande. Le tableau est assez noir. En fait, on voit que la viande pollue dans différentes dimensions. Elle a un impact considérable, par exemple, sur la biodiversité aussi. On dit que c'est la première cause de perte de biodiversité dans le monde. Par exemple, plus de 85% aujourd'hui de la destruction de la forêt amazonienne est attribuée à la viande, avec les pâturages et la production de céréales pour nourrir le bétail. Donc la viande contribue à la pollution globale avec la perte de biodiversité et le changement climatique et contribue aussi à la pollution locale. Elle pollue nos rivières avec les questions d'émissions d'azote. Elle pollue l'air avec les émissions d'ammoniac. Elle affecte le sol, etc.
Et ça, est-ce que ça veut dire qu'on produit trop de viande, tout simplement ? Est-ce qu'on la produit trop massivement ?
C'est toujours délicat de dire qu'on produit trop. Si on produit beaucoup, c'est qu'il y a une demande. En revanche, je suis économiste, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur les externalités. Donc, quand on produit, on satisfait une demande, mais aussi on génère des externalités dans la société, donc des externalités à la fois environnementales, je viens d'en parler, et aussi sanitaires. On sait que la surconsommation de viande dans les pays développés contribue à augmenter les risques de cancer, des maladies cardiovasculaires. On sait qu'on utilise beaucoup plus, environ la moitié des antibiotiques qui sont utilisés dans le monde sont utilisés sur les animaux. Donc ça pose évidemment des problèmes de résistance à ces antibiotiques. Et puis évidemment, il y a aussi tous les problèmes éthiques associés à la consommation ou la surconsommation de viande. Aujourd'hui, pour un ordre de grandeur encore, on tue dans les abattoirs en France 3 millions d'animaux par jour, donc des poulets, des porcs, des vaches, etc. C'est énorme, hein, 3 millions par jour, et la plupart des animaux sont élevés en intensif. Donc pour toutes ces raisons environnementales, sanitaires et aussi éthiques, on peut considérer effectivement qu'on mange trop de viande dans nos pays développés, et c'est un petit peu aujourd'hui le consensus dans le monde scientifique. Et
j'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur ce chiffre des 3 millions d'animaux tués en France par jour, parce qu'il est énorme, et aussi parce qu'il nous a interrogé, nous, avec Thibaut, pendant qu'on préparait l'émission. On se demandait si ces 3 millions d'animaux tués, est-ce que ces 3 millions d'animaux qui sont après consommés par les Français, ou est-ce que c'est une production qui après... on va dire est mondialisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exportations. Où est-ce qu'ils vont, ces 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour?
Bon, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout des poulets. Donc sur environ 1 milliard d'animaux tués par an en France, je pense autour de 900 millions d'animaux sont des poulets, hein. Donc c'est beaucoup de poulets. Ouais. Je crois environ 25 millions de porcs et puis quelques millions de vaches, etc. Donc c'est très déséquilibré en termes de population animale, on pourrait dire. Par rapport à votre question sur la consommation, il y a beaucoup, c'est un marché globalisé, donc il y a des exportations évidemment de ces animaux vers différents pays, des pays développés mais aussi des pays en développement, et on importe aussi certains animaux qui ont été tués ailleurs, c'est de la viande des produits dans des pays extérieurs.
Ce qu'on comprend, c'est que tout ce système est basé en fait sur des énormes installations, de grosses usines, c'est des gros leaders de production de la viande. Est-ce que vous pouvez justement les citer, ces leaders-là, à la fois en France et au niveau international? Quels sont d'abord les pays qui sont les leaders de la production de la viande?
Alors, les gros blocs de producteurs de produits animaux, donc c'est les États-Unis pour le bœuf et le lait typiquement, la Chine pour le porc et le poulet, et l'Europe aussi produit beaucoup de produits animaux, le Brésil produit beaucoup de poulet par exemple, l'Inde, la France est à son échelle, hein, compte tenu de sa population, est plutôt un gros producteur, mais donc évidemment la production de chaque bloc dépend des populations, de la taille finalement de ces blocs, des populations et puis de la consommation domestique aussi, hein. Si on regarde la consommation domestique, on voit que dans les pays développés, la consommation annuelle de viande se situe entre 60 et 120 kilos par an. Donc les États-Unis étant un petit peu au-dessus de cette fourchette, la France se situe à 90 kilos et le Japon étant un petit peu en dessous de cette fourchette puisque les Japonais consomment beaucoup de poissons.
Est-ce que un des leviers qui permettrait de réduire son impact pour ce qui est de l'écologie en tout cas ne tient pas forcément à l'amélioration des pratiques mais plus tout simplement à une diminution de la consommation?
Je suis d'accord avec ce point. C'est une des conclusions d'une étude publiée l'année dernière dans Science par Pour et Nemesek, qui ont étudié les impacts écologiques de différents produits alimentaires, donc bœuf, poulet, lait, poisson, crustacés, lentilles, noix, etc., sur différentes dimensions environnementales. Et ils ont proposé deux conclusions principales. Première conclusion, c'est que les produits animaux sont presque systématiquement plus polluants que les produits végétaux. Et la deuxième conclusion, c'est que pour vraiment avoir un impact significatif sur le dommage écologique, il apparaît plus efficace de modifier nos pratiques alimentaires, donc réduire significativement notre consommation de viande, plutôt que de changer nos pratiques agricoles.
Un élément qu'on a tendance à occulter lorsqu'on s'intéresse à la question du coût de la viande, c'est son coût humain, car à la problématique de son impact écologique, économique et sanitaire, et à celle évidemment des souffrances animales, on peut également ajouter une dimension sociale.
Et c'est pour ça que nous avions envie de discuter avec Geoffrey Le Guilcher. Il est journaliste, il a signé le livre Enquête Steak Machine aux éditions Goutte d'Or en 2016, dans lequel il raconte son infiltration pendant 40 jours comme ouvrier dans un abattoir de Bretagne. On a débuté en lui demandant s'il avait eu la sensation d'avoir eu justement un aperçu du coût humain de la viande.
Bah, c'est vrai que quand on rentre dans un abattoir, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la souffrance des ouvriers, quelque part, est liée à la souffrance des animaux. C'est pas forcément, moi c'est ce que j'ai pu observer au cours de mon immersion, deux souffrances à opposer. C'est pas les mêmes, il y en a qui perdent la vie, d'autres qui laissent leur santé, mais ça fait effectivement partie du coût de la viande.
Vous parlez de la première fois que vous rentrez dans un abattoir. Justement, cet abattoir donc, qui est au cœur du livre, vous l'appelez Mercure, parce qu'il y fait chaud, c'est une petite planète, vous dites, et qui est peuplée d'êtres étranges que vous appelez les hommes-crabes. C'est les ouvriers donc, des abattoirs qui ont les bras surdéveloppés à force de bosser. Il y a un côté presque irréel, c'est la sensation que vous avez eue en entrant dans cet abattoir.
Ouais, j'accorde beaucoup d'importance aux premières sensations quand j'arrive quelque part. Et c'est vrai que quand je débarque dans l'abattoir, bon voilà, je suis pas épais, ils sont tous hyper stock, ils ont des avant-bras énormes. Quand ils serrent la main, ils font mal. Mais après, ils sont très sympas, je suis super bien accueilli et je découvre une sorte de solidarité pour les nouveaux parce qu'ils préviennent que ça va être très dur. Donc ouais, j'ai vraiment eu cette sensation d'arriver sur un autre territoire, une petite planète, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu aussi y rester, y dormir, faire la fête, enfin faire tout comme eux à ce moment-là, et pas seulement être avec eux au moment de l'usine.
Comment c'est ? Bah, c'est un métier qui doit être fait du mieux que possible. Psychologiquement au départ c'est vraiment dur. Moi je viens de la boucherie, j'étais responsable de rayon pendant plusieurs années. Au début je savais pas si j'allais revenir ou pas, quoi. Puis bon, au bout d'un moment, on s'y fait, et voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que toute cette souffrance, elle est taboue, et c'est d'ailleurs une des révélations de votre livre. Quand certains organismes tentent de faire des rapports, de montrer la souffrance des gens qui y travaillent, tout ça, c'est caché.
Bah, en fait, oui, c'est exact. C'est qu'en fait, l'acte de naissance des abattoirs, comme l'a expliqué la sociologue qui a fait un peu d'histoire sur des abattoirs, Catherine Rémy, en fait, c'est que il y a deux siècles, on égorgeait les animaux dans la rue. Et il y a eu deux grands problèmes, hein, pour vraiment le faire court. Il y avait des problèmes d'hygiène, il y avait des rivières de sang partout. Et il y avait un problème soulevé par les autorités publiques qui est un peu plus intéressant, qui était la peur que les hommes, en voyant ce spectacle, reproduisent la même chose entre eux. Sous-entendu, ça puisse donner des idées à des Jack l'éventreur ou des égorgeurs potentiels. Et donc, on a eu l'idée de créer les abattoirs en périphérie des villes ou à la campagne, c'est-à-dire loin des yeux. Et ce qui s'appelait la tuerie, en fait, tout est devenu tabou, même les mots. Ce qui s'appelait la tuerie est devenu l'abattoir. On a végétalisé un petit peu les animaux, comme on peut parler d'étourdissement quand on enfonce une tige dans le crâne de l'animal pour qu'il s'affale avant d'être égorgé, ce genre de choses. Et en fait, ça a créé un tabou qu'on a un peu oublié. On a oublié les abattoirs. Et en fait, les gens qui travaillaient dedans, leur métier est devenu tabou, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas auprès de leurs proches. Moi, j'ai un tonton dans ma famille qui a bossé toute sa vie dans un abattoir, qui a perdu un doigt. Je ne sais toujours pas quel poste il occupait. C'est même après mon livre. C'est la seule personne avec qui je n'ai pas pu en parler. Et en fait, ça montre quelque chose. Ça montre que le tabou, il est à la fois intériorisé de la part des ouvriers et aussi de l'autre côté, personne ne veut en entendre parler. À table, si quelqu'un dit qu'il travaille dans un abattoir, on ne va pas lui poser une deuxième question.
Il y a aussi une forme de silence, c'est ce que disait Thibault, qui est presque organisée quelque part par les industriels de la viande, qui n'ont pas du tout envie qu'on aille regarder la manière dont est fabriquée la viande.
Alors, je dirais que leur organisation et l'histoire des abattoirs a fait que effectivement ils se sont créés dans le tabou, mais qu'aujourd'hui ils ont été un peu dépassés par ça. C'est-à-dire que par exemple on voit en Allemagne les plus grands abattoirs maintenant sont en mode transparence totale. Ils laissent les organisations de défense des animaux les visiter quand ils veulent. On n'est pas du tout là-dedans en France. En France, on est depuis qu'il y a eu l'association L214 qui en gros s'est spécialisée dans la révélation de vidéos dans les endroits des abattoirs où les animaux sont encore en vie. Il y a eu, à l'inverse, une sorte d'augmentation du tabou. On a construit carrément à l'intérieur de l'abattoir un mur entre la tuerie et le reste de la chaîne, car l'endroit où ils sont mis à mort s'appelle toujours la tuerie. On s'est replié sur soi-même.
Bunkérisation. Un tabou dans le tabou.
Il y a une réaction qui était incroyable par rapport à ça au moment de la diffusion des vidéos de L214. C'est qu'il y a notamment le directeur de l'abattoir de Mauléon, où il y avait une vidéo qui avait été sortie, qui, quand une vidéo a été diffusée où on a vu que certains salariés avaient frappé juste avant Pâques des agneaux, il n'a pas remis en cause du tout le système de fonctionnement de son abattoir. Il a dit c'est mes salariés qui sont des sadiques, je vais les virer, je vais m'en prendre à eux, c'est leur faute, uniquement eux. Et donc, encore une fois, les salariés sont considérés comme les uniques responsables.
C'est intéressant que tu parles de cette affaire parce que c'est précisément ce qui m'a donné envie d'aller m'infiltrer dans un abattoir. C'est qu'en fait, quand il y avait eu cette vidéo de Mauléon qui était sortie, tout le monde se déchargeait sur les ouvriers. Le directeur, les politiques, les journalistes qui, on va dire, suivaient un peu l'ambiance sans forcément... Mais tout le monde était en mode, voilà, on montrait des images de gens qui étaient en combinaison blanche tachée de sang, donc déjà visuellement des bourreaux, et en plus, on en rajoutait en mode, on est face à des tarés, etc. Alors qu'en fait, moi, personnellement, quand je vois une unanimité pour qualifier de bourreau des gens, en général, je trouve que c'est là qu'il y a un bon sujet. Et du coup, j'ai eu envie de me mettre dans leur peau, parce qu'évidemment, c'est des autres êtres humains qui sont sous ces combinaisons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'ils font là, comment ils bossent. Et en fait, on se rend compte très vite que le problème de l'abattoir, c'est il y a deux grands problèmes à l'abattoir. C'est le tabou, dont vous parliez au début, et la cadence. On est face aux deux grands dieux de l'abattoir aujourd'hui, et tout ça crée les dérapages, tout ça crée... Alors, ça peut paraître bizarre de l'extérieur, on se dit, en même temps, c'est un abattoir. Donc évidemment, on tue les animaux. Mais en fait, non. Il y a une science de la mise à mort, il y a des codes, il y a des lois, il y a même des lois du bien-être animal en abattoir. Et en fait, on se rend compte que tout ça est absurde.
Tout est régi par la règle des 60 secondes et des bips qui sonnent.
Alors dans l'abattoir où j'étais, effectivement, où ce qui est une chaîne bœuf, c'est-à-dire qu'il y a des vaches, des veaux ou des taureaux qui passaient devant moi, en gros, c'était 59 secondes à 60 secondes pour traiter chaque animal. Par exemple, pour les cochons, c'est 20 secondes par animal. Pour les poulets, ça peut être 3 ou 4 secondes. Donc ça dépend des animaux, mais oui, c'est... Il faut se rendre compte que on est vraiment dans Charlie Chaplin, quoi. On est tout le temps comme ça en train de courir, en train de transpirer. Dans les 60 secondes, il faut aiguiser les couteaux, se laver les mains, changer de couteau. Et on est vraiment, ouais, on est en train de courir. En plus, on est sur une nacelle qui monte et qui descend avec les pieds. Donc, autant vous dire qu'au début, vous faites le mouvement inverse, vous partez en haut quand vous voulez aller en bas. Ça met vraiment beaucoup de temps pour arriver à se coordonner. Et c'est d'ailleurs toute la particularité de l'abattoir. C'est-à-dire que le travail à la chaîne, c'est très intéressant, est né dans les abattoirs de Chicago, il y a à peu près un siècle et demi, et, voire même deux siècles. Et en fait, c'est développé après. Henry Ford a visité les abattoirs de Chicago et a imaginé qu'à la place de dépecer des animaux, il allait monter des voitures, mais il a recopié l'organisation. Dans les usines de voitures, dans toutes les autres usines, le travail à la chaîne est petit à petit remplacé, mais pas dans les abattoirs. À quelques exceptions près, par exemple, il y a certains cochons qui ont été tellement, on va dire, copiés génétiquement, ils sont tellement identiques, ils ont tellement le même poids que les Japonais, par exemple, ont développé des robots pour les désosser. Mais globalement, c'est impossible parce que chaque animal, comme tu le disais, est tellement différent et vivant, n'a pas les mêmes réactions, qu'en fait, on garde de l'humain au centre de ces chaînes. Et en fait, le dinosaure du travail à la chaîne sera peut-être le dernier à exister, en tout cas aujourd'hui. On est dans des conditions de travail qui sont assez proches des premières conditions de travail. Alors évidemment, il y a des normes d'hygiène, il y a des horaires cadrés, pour l'abattoir où j'étais tout du moins, mais on est quand même dans quelque chose qui reste très brut. Il y a une sorte de corps à corps, notamment quand on est face à l'animal vivant.
C'est ce que vous, vous appelez les damnés de la viande, ces derniers ouvriers, donc pour faire une petite référence aux damnés de la terre de l'international. Vous terminez sur une interrogation qui d'ailleurs traverse un peu tout le bouquin, c'est qui se soucie quelque part des damnés de la viande. Vous avez trouvé la réponse depuis ou...
Bah, en fait, c'est assez étonnant. J'ai notamment dans mon entourage, par exemple ma famille qui est plutôt une famille de viandards à la base, qui n'avait pas une sensibilité pour les animaux de ferme, pour les chiens, les chats, oui, mais pas pour les animaux de ferme. Ma mère a arrêté de manger des animaux pendant 6 mois après la lecture du livre à cause de la condition des ouvriers.
Ouais.
Et en fait, je m'y attendais pas, mais j'ai l'impression que ça a touché d'autres personnes et aussi des personnes qui sont sensibles à la cause animale et qui, comme d'ailleurs L214 qui a soutenu le bouquin, ne fait pas d'opposition entre souffrance humaine et souffrance animale. Au contraire, eux, ils disaient, bah, regardez, c'est une autre partie, une autre facette du problème. Mais oui, ça, c'était assez étonnant. Après, il y a eu... j'ai été contacté aussi par le ministère de l'Agriculture qui a relancé un rapport sur les abattoirs, sur les conditions de travail. Et aussi le Sénat qui avait fait une commission. Mais bon, en vrai, ils ont déjà à peu près les réponses. Ils ne cherchent pas des réponses. Ils cherchent pas des fusibles, mais on va dire une sorte d'exutoire pour montrer qu'il y a quelque chose qui est en place. Mais en fait, derrière, les seules recommandations qu'on peut faire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, même si peut-être les gens qui font le rapport ont fait Polytechnique, c'est qu'en fait, il y a une cadence qui est trop élevée. Mais si vous réduisez la cadence, vous diminuez la rentabilité. Et si vous diminuez la rentabilité, sachant que les abattoirs sont, entre guillemets, tous sponsorisés, à part les très gros, parce que ce n'est pas rentable, en fait. Ce n'est pas la partie, c'est un maillon de la chaîne agroalimentaire qui n'est pas rentable. Donc en fait, vous êtes au ministère de l'Agriculture, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, bah, vous êtes déjà face à toute une industrie qui se plaint et qui en gros, vit des subsides de l'État, et vous n'allez pas leur imposer des normes encore plus drastiques. Donc en fait, on est dans un cul-de-sac à ce niveau-là, je pense.
Sur la rentabilité, ça c'est vraiment intrigant, cette dimension-là. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément de l'extérieur.
Mais c'est, oui, c'est parce que les gens qui travaillent là sont très mal payés. Il y a un système économique qui est là pour toujours pousser à plus de rentabilité, plus d'efficacité. Et pourtant, l'efficacité, elle n'est pas là parce que ce n'est pas rentable. C'est hyper étonnant.
En fait, on est face à un mélange de différents industries qui sont modernes et anciennes. Si on schématise la chaîne agroalimentaire, il y a l'agriculture, je parle pour les animaux, il y a l'agriculture, donc les éleveurs, il y a les abattoirs, il y a les supermarchés. Bon, il n'y a pas que les supermarchés, mais c'est eux qui dominent le secteur. Et il y a les consommateurs. Et en fait, ceux qui tiennent les rois, les papes de la chaîne, c'est les supermarchés et quelques gros industriels. Mais en vrai, les supermarchés. Et donc, du coup, par exemple, Intermarché a sa propre flotte de pêche. Leclerc a ses propres abattoirs. Donc, en fait, ils peuvent fixer le cours du kilo de tel ou tel animal, soit directement par les quantités qu'ils achètent, soit parce que ça leur appartient. Et en plus, derrière, c'est eux qui vendent aux consommateurs, donc ils font des promos l'été pour les barbecues ou à la rentrée quand les congélateurs sont vides parce que les gens sont partis en vacances. Et donc, du coup, c'est eux qui gèrent l'activité de A à Z. Donc, à partir de là, ils sont obligés de composer avec le fait que l'agriculture n'est pas rentable, les abattoirs ne sont pas rentables, ils se débrouillent avec l'État, avec l'Europe pour avoir des subventions. Mais pour vous donner une idée, le kilo de bœuf, la rentabilité moyenne nationale, il y a deux ans, quand moi j'étais dans mon abattoir, d'après les chiffres du ministère de l'Agriculture, c'est 0,01 centime d'euros pour un abattoir moyen. Après, pour les très gros, ils arrivent à faire monter un peu la rentabilité.
Par kilo
carcasse. Ça veut dire même avec les os, puisque tout est vendu, tout est utilisé. Hein. La graisse pour faire des bonbons Haribo, certains, puisque maintenant ils en font sans graisse de porc, après avoir eu des difficultés avec des organisations juives et musulmanes qui se plaignaient que c'était pas indiqué, et aussi certains véganes. Et du coup, plus l'abattoir est gros, plus ils peuvent utiliser des petits bouts. Donc on parle du kilo carcasse, donc tout quoi. Et ben c'est 0,01 centime. Et pour le porc, c'est négatif. Ils perdent de l'argent.
En fait, on est tous confrontés à ce qu'on appelle le paradoxe de la viande, c'est-à-dire que de fait, on n'a pas envie de faire souffrir des animaux, et pour autant, on est très nombreux à en manger, donc à accepter qu'ils soient tués. Comment, en ayant travaillé dans un abattoir et en ayant vu ces animaux, comment ils sont transformés, comment toi tu résous ou non ce paradoxe de la viande ?
Je pense que déjà, il faut avoir en tête qu'on est, face à quelque chose de millénaire. C'est-à-dire qu'il y a des théories sur le fait que nos descendants, les grands singes, mangeaient que de l'herbe à un moment donné. L'être humain s'est mis à manger des animaux depuis extrêmement longtemps. Et donc, du coup, on est face à quelque chose qui est très profond. Souvent, quand on aime tel animal, telle viande, c'est depuis qu'on est bébé qu'on la goûte. Donc en fait, nos goûts sont forgés à travers ça. Et donc, on est un peu dans une sorte de schizophrénie, même quand éthiquement, on se dit qu'il y a un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le paradoxe, c'est que depuis qu'on a créé des animaux en fait, de ferme ou des animaux modifiés pour pouvoir être consommés largement, on a mis une loupe sur ce qui n'était pas éthique, c'est-à-dire qu'on les traite comme des pièces d'usine, c'est-à-dire ils ont une vie qui est horrible depuis la naissance à leur mort, leur mort étant l'un des points culminants, mais pour certains animaux, leur vie étant pire que leur mort. Donc c'est paradoxalement ce qui a fait naître l'éthique animaliste. C'est la révolution industrielle qu'on s'est mis à cultiver et à élever des animaux plutôt que les cultiver. On s'est mis à élever des animaux en masse et à les tuer en masse, n'importe comment, de façon inhumaine, on a envie de dire. C'est ça qui fait que, en fait, la schizophrénie, elle est sociétale, elle est culturelle, elle est familiale. Et donc, moi, je comprends tout à fait, et je suis le premier à être dans ce cas-là, qu'on puisse se dire bah il y a un énorme problème, je veux plus que ce soit comme ça, et en même temps être invité chez des amis et à encore trouver du plaisir à manger un steak ou du poulet parce que voilà, c'est très profond, c'est quelque chose qui est extrêmement profond.
Et l'une des révolutions à venir qui pourrait bien changer notre rapport à la viande, c'est l'irruption prochaine dans nos vies de la viande synthétique, sur laquelle misent de nombreux cerveaux de l'économie numérique. Problème, si elle peut régler en partie la question de la souffrance animale, elle ne viendra certainement pas à bout du volet écologique des choses, puisqu'on annonce déjà cette future industrie comme étant ultra polluante. Merci à Nicolas Treich et Geoffrey Le Guilcher pour leurs réponses. Merci à Thibaut Shepman d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B, qui, comme vous le savez, puisque je le dis tous les jours, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Abonnez-vous aussi, tant qu'à faire, à Bon Plan, le podcast de Thibaut consacré à l'agriculture en ville et au renouveau végétal urbain. Pour nous parler, c'est sur Facebook ou sur Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? qui étaient ces disparus et surtout comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée. Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.